Et comment se nomme, reprit Jean, ce puissant baron qui convoite de s'unir à nos tours en ruine et à notre belle fortune de dette? J'espère au moins, ma sœur, qu'il est riche, car nous en avons grand besoin.
Certes, il l'est, répondit Marie. C'est Guccio Baglioni.
Au regard que lui lança son frère aîné, elle eut la certitude immédiate qu'elle courait à un drame. Elle eut froid tout à coup et ses oreilles se mirent à bourdonner. Jean de Cresset finit encore quelques secondes de prendre l'affaire en plaisanterie, mais le ton de sa voix était changé. Il désirait savoir quelle raison incitait sa sœur à parler de la sorte. Avait-elle eu avec Guccio des relations ou paroles outrepassant les limites de l'honnêteté? Lui avait-il écrit à l'insu de la famille? À chaque question, Marie répondait par une dénégation vague qui masquait bien mal son trouble croissant. Jean se faisait plus insistant. Pierre se sentait mal à l'aise.
« J'aurais été mieux avisé de me taire, » se disait-il.
Ils entrèrent tous trois dans la grande salle du manoir où leur mère, Dame Eliabelle, filait la laine auprès de la cheminée. La châtelaine avait repris son embonpoint naturel grâce aux victuailles que chaque semaine depuis la disette de l'hiver précédent, Guccio leur procurait. « Regagne ta chambre, » dit Jean de Cresset à sa sœur. Comme aîné, il avait autorité de chef de famille. Lorsque Marie se fut retirée et qu'on eut entendu à mi-étage la porte se fermer, Jean mit sa mère au courant de ce qu'il venait d'apprendre.
« En es-tu sûr, mon garçon? Est-ce possible ?» s'écria Dame Eliabelle. « À qui donc poindrait la sotte idée qu'une fille de notre sang, dont les pères ont la chevalerie depuis 2 siècles, puisse épouser un Lombard? Je suis certaine que ce jeune Guccio, qui est plaisamment tourné d'ailleurs, et montre de gentilles manières, n'y a jamais songé. »
« Je ne sais pas s'il y a songé, ma mère, » répondit Jean, « mais je sais que Marie, elle, y songe. » Les fortes joues de Dame Eliabelle se colorèrent.
« Cet enfant se monte la cervelle. Si ce jeune homme, mes fils, est venu à plusieurs reprises nous visiter, et s'il nous a témoigné si grande amitié, c'est qu'il porte, je crois bien, plus d'intérêt à votre mère qu'à votre sœur.
« Oh, sans déshonnêteté aucune !» se hâta d'ajouter Dame Eliabelle. « Et jamais un mot qui put offenser n'a passé ses lèvres. Mais ce sont tout de même choses qu'on devine lorsqu'on est femme, et j'ai bien compris qu'il m'admirait. »
Se disant, elle se redressait sur son siège et gonflait le corsage.
« Je n'en suis pas aussi assuré que vous, ma mère, » répondit Jean de Cresset. « Rappelez-vous qu'à son dernier passage, nous avons laissé Guccio seul à plusieurs reprises avec notre sœur, alors qu'elle semblait si malade. Et c'est depuis ce moment qu'elle a recouvré la santé.
« Peut-être parce que depuis ce moment, elle a commencé de manger à sa faim, et nous avec, » fit remarquer Pierre.
« Oui, mais vous noterez que c'est toujours par Marie, depuis lors, que nous avons des nouvelles de Guccio. Son voyage en Italie, son accident de jambe, c'est toujours Marie que Ricardo informe, et jamais nul autre d'entre nous. Et cette grande insistance qu'elle met à aller chercher elle-même les vivres au comptoir, je pense qu'il y a là-dessous quelques machinations sur laquelle nous n'avons pas assez ouvert les yeux. »
Dame Eliabelle abandonna sa quenouille, chassa de la main les brins de laine épars sur sa jupe, et, se levant, dit d'un ton outragé,
« En vérité, ce serait grande vilainie de la part de ce jouvenceau que d'avoir fait usage de sa fortune mal acquise pour subordonner ma fille, et prétendre acheter notre alliance par des dons de bouche ou de vêtements, alors que l'honneur d'être notre ami devrait largement suffire à le payer. »
Pierre de Cresset était seul dans la famille à posséder un sens à peu près juste des réalités. Il était simple, loyal et sans préjugés. Les déclarations qu'il entendait, tissues de mauvaise foi, de jalousie et de vaines prétentions, l'irritèrent.
« Vous semblez oublier l'un et l'autre, » dit-il, « que l'oncle de Guccio a toujours sur nous une créance de 300 livres, qu'on nous a fait la grâce de ne pas nous réclamer, non plus que les intérêts qui ne cessent de s'allonger. Et si nous n'avons pas été saisis, terres et murs, par le prévôt portefeuille, c'est bien à Guccio que nous le devons. Rappelez-vous aussi qu'il nous a évité de mourir de famine en nous fournissant des victuailles que nous n'avons jamais payées. « Avant de l'écarter, songez un peu si vous pouvez vous acquitter. Guccio est riche, et le sera plus encore avec les années. Il est fort protégé, et si le roi de France l'a trouvé d'assez bonne apparence pour le joindre à l'ambassade qui allait à Naples chercher la nouvelle reine, je ne vois pas que nous ayons tant à faire les difficiles. »
Jean haussa les épaules.
« C'est encore Marie qui nous a conté cela, » dit-il. « Il y est allé comme marchand pour faire son négoce. »
« Et même si le roi l'a envoyé à Naples, cela ne veut pas dire qu'il lui donnerait sa fille !» s'écria Dame Eliabelle.
« Ma pauvre mère !» répliqua Pierre. « Marie n'est pas la fille du roi de France, que je sache. Elle est fort belle, certes. Je ne vendrai pas ma sœur pour argent !» cria Jean de Cresset.
Ses yeux brillaient au milieu d'un poil hirsute.
ne la vendrais pas, non, répondit Pierre. Mais tu t'accommoderais pour elle d'un barbon, sans t'enfoncer qu'il fût riche, à condition qu'il traînât éperon à ses talons goûteux. Si elle aime Guccio, tu ne la vends pas.
La noblesse, ah bah, nous sommes assez de deux garçons pour la maintenir. Je me dois de vous dire que je ne verrai pas ce mariage d'un si mauvais regard.
Et tu ne verrais point non plus d'un mauvais regard ta sœur installée à Naufle dans notre fief, derrière un comptoir de banque, à peser le billon et à trafiquer de l'épice? Tu déraisonnes, Pierre. Et je me demande d'où peut te venir si peu de respect de ce que nous sommes, dit Dame Eliabelle. En tout cas, je ne consentirai jamais à une telle mésalliance. Et ton frère non plus, n'est-il pas vrai, Jean?
Certes, ma mère. Et c'est déjà trop que d'en débattre. Je prie Pierre de n'en plus jamais parler.
C'est bon. C'est bon, tu es l'aîné, agis comme tu l'entends, dit Pierre.
Un Lombard! Un Lombard! Reprit Dame Eliabelle. Ce jeune Guccio arrive, me dites-vous? Laissez-moi faire, mes fils. La créance et les obligations que nous lui avons nous empêchent de lui fermer notre porte. Soit, nous allons bien le recevoir, mais s'il est fourbe, je le serai aussi, et je me charge de lui ôter l'envie de venir à nouveau, si c'est pour le motif que nous craignons.